Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Clémentine Gonsan, Sophie Rosemont et Christophe Comte pour parler en effet d'Alain Souchon et de son nouveau disque M50s, mais aussi de Vincent Delerme, de La Féline et de David Stanke. Nous ouvrons donc cette dispute avec M50s, Alain Souchon, 45 ans. Après avoir sorti son premier album, J'ai 10 ans, Alain Souchon en a 75, qui n'a rien d'illogique avec lui. On continue dans les chiffres pour dire que cela faisait 11 ans qu'il n'avait pas sorti de disque solo avec de nouvelles chansons. Il y en a 10 dans un nouvel album, dont 9 inédites, la dernière ayant été écrite pour le film d'Edouard Baird, Ouvert la nuit en 2016. On va écouter une de ses nouvelles chansons de ce disque qui sort vendredi. Elle a pour titre Debussy, Gabriel Fauré, parole. Alain Souchon, David McNeil, musique, Pierre Souchon.
Elle joue sous des lambris dorés, Debussy, Gabriel Fauré, Vert de Venise, cuir de Russie, Gabriel Fauré, Debussy, des pavanes qui s'écoutent assis. Gabriel Fauré, Debussy, toujours à leur piano fourré. Debussy, Gabriel Fauré, nous nous sentions accaparés. Debussy, Gabriel Fauré, Berry, Chakali, Dead Johnny, Gabriel Fauré, Debussy. Princesse blonde décolorée, Debussy, Gabriel Fauré, nous écoute que dans les taxis, Gabriel Fauré, Debussy, sonate en ré, si maman si, Gabriel Fauré, Debussy, qui donc a pu nous séparer. Debussy, Gabriel Fauré, c'est vrai faubourg Saint-Honoré. Debussy, Gabriel Fauré, c'est loin de Memphis, Tennessee. Gabriel Fauré, Debussy. Debussy, Fauré, Gabriel, venez en robe longue à Bercy, Gabriel, Fauré, Debussy.
Debussy, Gabriel Forest est le titre de cette chanson du nouvel album d'Alain Souchon qui lui s'appelle Am 50s, qui sort ce vendredi. Un premier tour de table synthétique avant de développer, Christophe Comte.
Souchonien.
Ouais. Sophie Rosemont.
Une certaine essence de la chanson française.
Clémentine Goldsall.
Ce qui se contente d'être joli ne prend jamais le risque d'être beau.
Christophe, vous allez développer le souchonien.
À souchonien, c'est-à-dire que on a pu l'entendre. On est dans un registre. On rentre dans ce disque comme dans des pantoufles. Hein, c'est-à-dire qu'on sait déjà où on va aller. On sait comment Souchon aborde les choses, c'est-à-dire à tâtons, mais avec une fermeté. C'est là où tout le paradoxe.
Le tâton ferme, donc.
Oui, parce que c'est un disque assez politique sur le fond. Il y a des phrases comme ça, comme celle qu'on vient d'entendre sur la lutte des classes. Il y a une chanson sur les migrants, où c'est un type qui vient sur une colline et qui fume une cigarette en regardant. Et le spectacle qu'il regarde, c'est des tentes de gens, des bidonvilles, donc c'est nous, c'est Paris. Et tout ça est chez Souchon de plus en plus affirmé avec le temps. Vous l'avez rappelé, j'ai 10 ans, tout ça, c'était pendant très longtemps une sorte d'insouciance qui était héritée des années 70. Et puis petit à petit, la gravité s'est rapprochée de Souchon, qui reste quelqu'un d'assez léger dans la vie en apparence. Et plus les disques avancent, et celui-là est plutôt un bon cru par rapport, je trouve, au dernier en date de chanson originale qui avait un très beau titre.
Oui, donc j'oublie à l'instant, qui s'appelait « Écoutez d'où ma peine vient ».
Voilà, et ce titre-là en disait d'ailleurs assez long.
Oui, programmé déjà.
Il y avait cette chanson sur les religions, et si jamais il n'y a personne, je crois. Enfin, je suis très mauvais pour les titres, mais il y a tous ces thèmes qui nous entourent, qui nous pollue de temps en temps, qui sont à travers ce disque évidemment nostalgique, parce que Am 50s, qui est la chanson d'ouverture, est une sorte comme ça de panorama, pour reprendre un terme qu'on emploiera un peu plus tard, de tout un tas d'images cinématographiques ou autres des années 50. On sent qu'il y a chez Souchon probablement un regret de quelque chose, mais qui n'est pas du « c'était mieux avant ».
Non.
Qui est encore autre chose, c'est toi, Sophie, qui a employé le mot d'élégance, c'est le regret d'une élégance qui n'a pas de finalement d'époque, mais qui, sans doute, dans le regard de quelqu'un comme Souchon, qui arrive à 75 ans, se dit, bon, c'est un peu terminé, on a passé d'époque. Après, c'est un disque, je pense, comme beaucoup d'albums, qu'il faut écouter assez attentivement et assez longuement pour pas se laisser, convaincre par cet argument que j'ai donné au début, c'est que c'est très Souchon. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois, comme chez tous les grands artistes, de Rothko à Leonard Cohen, c'est des petites touches qui font la différence. Et je pense que chez Souchon, ces touches-là, ici, sont assez importantes.
Alors, c'est vous, Sophie Rosemont, qui employez ce terme relevé par Christophe Comte. On développe sur cet album d'Alain Souchon.
Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine élégance dans ses retrouvailles. En fait, Souchon, il reste très fidèle à lui-même, c'est-à-dire très français, passéiste, mais toujours avec un clin d'œil ludique, technique dont s'inspirait un certain Vincent Delerme. On en parlera tout à l'heure. Les jeunes gens à la guerre, les usines qui ferment, les femmes d'un autre temps, les voitures aussi d'un autre temps, c'est ce qu'il nous raconte si joliment, avec sa voix qui est quand même assez immuable. Et son émotion enfouie toujours, très très loin sous sa nonchalance, mais qui est là, et une détermination très forte sous sa distance, parce que malgré ses grands airs d'ado de 75 ans, Souchon est quelqu'un qu'on devine assez dur, beaucoup plus dur que ses mélodies. Après voilà, c'est un album qui est fait en famille, avec ses deux fils. Il y a effectivement Delerme qui joue du piano sur l'avant-dernier titre.
Delerme qui n'est pas le fils d'Alain Souchon. Hein,
voilà. Vincent Delerme, c'est son, on va dire, un de ses fils spirituels, dirons-nous. Moi, peut-être qu'un de mes titres préférés, c'est Ouvert la nuit, alors qui n'est pas du tout nouveau, parce que c'était...
2016,
il fermait le film, le très joli film d'Edouard Baer. Ce côté fanfare, moi j'aime bien les fanfares, les cuivres de ce titre. Mais il y a aussi des titres comme Un terrain en pente, dont parlait Christophe à l'instant, Irène, donc avec Woolsey, où il y a même des arrangements à façon Jimmy. J'ai trouvé que ça, on revenait vraiment là 30 ans en arrière. Dans,
c'était il y a 30 ans, Jimmy.
Au moins, peut-être. Oui, on va dire à peu près, dirons-nous.
J'étais déjà pas en forme, mais alors là, avec un coup pareil.
Ça ne nous rajeunit pas. Oui, je suis désolée. Moi, j'étais encore une. Moi, j'étais très, très.
J'étais pas née il y a 30 ans.
Oh, bah, je n'étais pas née. L'orchestration est assez classique, parfois un peu trop, mais on reste dans la. Dans le piano et la guitare sèche qui vont très bien avec le timbre de Souchon. Et parfois, on s'aventure comme dans presque avec les boîtes à rythme, ce dont je suis peut-être moins adepte, mais, je peux comprendre, ça colle bien. En gros, voilà, c'est des ritournelles qui parlent de soi comme du monde qui nous entoure, de nos idoles. Ça aussi, un point commun avec un certain Delerme et nos petites manies. Et moi, j'aime bien la manière dont il parle aussi de nos petites manies.
Quelles sont les petites manies de Clémentine Goldsall? C'est pas maintenant qu'elle va nous le dire. Elle va parler dans la Souchon.
Non, vous avez pas envie.
Moi, j'ai très envie.
Non, je vous assure que
pas
non.
Pas sûr que toutes les auditrices et auditeurs soient dans le même cas que moi.
On en parlera après. Non, je sais pas. Je vous entends parler de quelque chose de très subtil et souterrain, et donc je me dis que moi, peut-être, je suis trop gros sabot et premier degré, mais j'entends pas ça. Moi, j'entends une sorte une forme quand même de mollesse, une sorte de nostalgie un peu vague. Alors, si passion il y a, elle est étouffée. Si engagement il y a, il est tellement subtil et enrobé dans ses arrangements parfois un peu gnangnan qu'on l'entend pas. J'ai l'impression que, enfin moi, ce que j'aime quand même dans des chanteurs, c'est quand ça parle de la vie et de la mort et qu'on a l'impression que s'il faisait pas ça, il serait six pieds sous terre. Et là, je me dis qu'Alain Souchon, bon, j'ai l'impression qu'il passe par là. Finalement, c'est ce qu'il fait, donc il le fait. Mais ça manque d'un engagement du corps, quoi, je trouve, ce disque. Et ça me fait un peu l'impression d'un roman sans style, quoi. Il y a un côté, la liste de mes envies, un truc franchement en plus un peu bourgeois, des petits désagréments du quotidien, une sorte d'esthétique du minuscule, quoi, qui, moi, me laisse complètement de marbre. Alors peut-être que oui, effectivement, peut-être que moi j'aime quand c'est plus prégnant, que c'est plus fort. Moi j'aime Benjamin Biolay, j'aime.
Non, vous aimez la country surtout. Depuis que je sais ça, j'ai une grille de lecture sur vous tout à fait nouvelle.
Bah oui, mais typiquement, voilà, j'aime Johnny Cash, j'aime les mecs dont quand je les écoute, je me dis s'il faisait pas ça, il serait mort. Et Alain Souchon, je me dis ah bah s'il faisait pas ça, il aurait un jardin à je sais pas où d'ailleurs.
Ah, c'est pas sûr.
Eh bien, moi je ne crois
c'est
pas.
C'est pas sûr, c'est beaucoup plus obscur. Hein, le passé de Souchon est bien trop obscur pour qu'on puisse penser ça. Même si je comprends sur la mollesse et quand vous dites assez justement qu'il n'y a pas de corps, c'est vrai que c'est d'autant plus souligné sur ce nouvel album. Il y a quelque chose de tellement cérébral, très loin du corps, comme s'il était absent de son propre corps, mais qui fait partie, quelque part, de ce qu'on peut aimer ou pas.
Oui, parce qu'il a toujours été comme ça, Souchon. C'est quand même un peu la silhouette de Gaston Lagaffe, même physiquement. Non, mais c'est vrai, pour l'avoir rencontré quand même un certain nombre de fois au fil des années, il n'est pas caractérisé par l'énergie de sa poignée de main.
Non,
mais c'est pas là que ça se passe.
Non,
pour
mais
moi.
Du coup, je me demande pourquoi il fait de la musique, pourquoi il fait pas autre chose.
Moi, je pense que c'est absolument essentiel, contrairement à ce que vous avez
parce que
entendu.
C'est
finalement
moi, je crois pas très musical. La production est tellement un peu comme ça, un peu éthérée, un peu vague.
Bah, un peu, moi je dirais délicate, élégante aussi, voilà. Je reprendrais le mot de Sophie Rosemont. C'est vrai que moi, c'est vraiment pas. Il y a peu de chansons d'Alain Souchon que j'aime musicalement. C'est pas les questions de production. Moi, la guitare qui tricote, c'est pas absolument mon genre de beauté. Enfin, j'aime mieux quand. À la limite, c'est vrai que sur Presque ou quand il y a des embardées, elles sont pas toujours heureuses, mais lui, mais tiens, il essaye quelque chose et ça, je suis plutôt content. Il y a des très bonnes chansons musicalement d'Alain Souchon, mais sur 50 ans de carrière ou presque. Là, c'est pas ça qui me retient. Moi, c'est l'interprétation. C'est effectivement les paroles de ces chansons qui sont pas toujours toutes de lui, mais qu'il porte. Je crois que c'est effectivement avec l'air de ne pas y toucher. Comme Christophe Comte disait tout à l'heure, il faut pas se laisser endormir par la ritournelle Souchon. En fait, il faut quand même aller peut-être écouter d'un peu plus près. Mais il faut avoir envie. Je comprends très bien que ça vous laisse à distance, Clémentine, mais il me semble qu'il y a des choses qu'on peut aller percevoir. Effectivement, c'est à peine esquissé. Si on a envie d'y aller voir, je crois qu'il y a des choses à voir. C'est mon sentiment.
Non, on peut chercher la phrase bien d'un roman de Marc Lévy et tout ça. Moi, je préfère des trucs qui me sautent aux yeux.
La cruauté, la cruauté. Mais ouais. Clémentine, il y a un peu de country dans Ronsard Alabama. Là, il y a des petits échos Americana. Là, ça devrait vous parler. Non, là, vous commencez très gentil. On commence à citer Marc Lévy. Non, là c'est cruel. Vous m'avez poussé à bout.
Christophe Comte.
Moi, j'aime bien Presque, en fait. J'aime bien l'idée. Oui, j'aime bien la aussi. Chanson, je la trouve très
avec
entraînante.
Avec Edouard Baird, je permets de glisser.
La groupie a parlé.
Je trouve l'idée, et puis cette idée-là, elle est quand même assez commune à Delerme aussi. C'est le presque, c'est tout ce qu'on n'aurait pas fait, ce qu'on aurait pu faire, et ces choses-là. Je trouve que le frôlement, c'est quelque chose que je trouve assez touchant, et je trouve que cette chanson-là, c'est un thème qui avait souvent été abordé. Mm-hmm. Le fait de si on avait... Alors, il y a un côté de Marc Lévy, peut-être, dans les deux.
Et si c'était vrai.
Voilà, mais cette idée des lieux aussi, la grande place à Lille. Mm. Il y a beaucoup de lieux. Et je trouve ça assez touchant parce que d'un coup, ce sont des images très cinématographiques, finalement. Souchon, au fond, est sans doute, comme beaucoup de chanteurs, quelqu'un qui aurait sans doute fait un bon cinéaste si on lui avait donné une caméra. Il a fait un très bon acteur. Mais il aurait peut-être pu... je sais pas, il y a quelque chose dans son écriture. Alors, j'avais pas les crédits, donc je ne sais pas qui a écrit quoi. Vous m'avez dit David Mackie.
Pierre Souchon, beaucoup.
Un dossier de presse pour la musique. J'ai ouvert tous les fichiers pour savoir.
Mais visiblement, je me trompais, que Laurent Voulzy me manquait un peu. Mais en fait, apparemment, il est quand même là. Mais...
Une seule chanson, ouais. Irène.
Et je trouve, c'est peut-être le défaut de ce disque, c'est que je pense qu'il manque la touche un peu british de Voulzy. Plus pop, qu'on retrouvait assez régulièrement, forcément, sur les albums de Souchon, mais aussi sur l'album qu'ils avaient fait tous les deux avant celui-ci, qui n'était pas tout à fait réussi, mais qui était quand même une bonne coagulation de leurs deux différences avec ce côté pop de Voulzy, qui là, pour le coup, y allait beaucoup plus frontalement. Et ça allait assez bien à Souchon, qui est, je trouve, une sorte de George Harrison assez convaincant.
Mais comme vous citiez tout à l'heure Marc Lévy, j'avais envie de vous répondre Patrick Modiano plutôt, parce que c'est vrai que tous ces lieux, tous ces retours du passé, cette forme de mélancolie. Alors un Modiano qui serait politisé, parce qu'effectivement il y a des éclats comme ça d'aujourd'hui qui sont quand même très peu présents chez Patrick Modiano, mais il y a cette délicatesse-là. Il y a des gens qui vous disent « Ah, Modiano écrit toujours le même livre, on s'en fout, c'est la petite musique, etc. » Alors, on peut recevoir ça. Moi, je pense que c'est immense, mais...
Évidemment.
Non. Enfin,
la petite musique, c'était Sagan. Dire ça de Modiano, c'est impossible.
Bah ça, c'est quand
pense.
On ne sait pas quoi
non,
dire.
Non, mais le militantisme délicat, aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Quand on proteste délicatement contre le sort des migrants, qu'on défile délicatement contre le changement climatique, je ne sais même pas ce que ça veut dire.
C'est ces choses-là qui sont les plus révélatrices, je trouve, du savoir-faire d'un artiste, contrairement à des militants qui ont d'autres vertus. Mais un artiste qui arrive point levé à la Saez ou je ne sais pas quoi, ça tombe à plat. Je trouve qu'au contraire, une chanson comme Souchon, un album qui est écouté par plein de gens, qui peut-être...
Ça infuse,
exactement. Et le côté Modiano, moi j'aime bien, forcément, c'est quelque chose qui est dit depuis très très longtemps, mais on le dit peut-être pas assez sur cette catégorie-là de chanteurs qui sont toujours un petit peu brocardés pour leur mollesse et quand même, en vis-à-vis, ils ont un prix Nobel, donc je pense que c'est pas mal.
Mais peut-être ça va infuser...
En écoutant Alain Souchon à fond.
Peut-être ça va infuser en vous, Clémentine.
Moi j'écouterais plutôt Philippe Glass en lisant Modiano, mais c'est vrai que la mémoire, je crois que c'est un... D'ailleurs, qui verrait très bien avec Delerme aussi, et finalement même La Féline. Dès qu'un artiste parle de mémoire, sauf si la démarche est faite de manière maladroite, ça peut être qu'important.
Vous annoncez la suite du programme, vous êtes merveilleuse. Sophie Rosemont, nous parlions en effet d'Alain Souchon et de son Am 50 chez Virgin qui sort ce vendredi. Je ne vais pas donner toutes les dates de concert parce que sinon on est encore à la fin de l'émission. Ça commence le 26 octobre à Courbevoie. Je n'ai quelques villes dont on ne parle pas assez. Le 7 novembre à Abbeville. 30 janvier à Épernay. 1er février Saint-Omer. On ne parle pas assez souvent de Saint-Étienne où il sera Alain Souchon le 20 février. De Pau le 13 mars. Montbéliard le 19 mars. Bourg-en-Bresse le 26. Et je vais citer encore, pour faire plaisir à Michel Houellebecq, le 5 avril. Et puis Aurillac, le 17 avril. La tournée d'Alain Souchon comporte bien d'autres dates. Nous allons donc parler de Vincent Delerme, de La Féline, mais aussi de David Stanke.
France Culture, La Dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Panorama de Vincent Delerme. J'ai tôt ou tard, nous avons parlé dans cette émission du précédent album de Vincent Delerme. C'était en septembre 2016 et c'était la toute première dispute de Sophie Rosemont.
Vous vous en souvenez, Arnaud?
Non, j'ai des archives très bien faites.
Ah, ça me touche.
Vous étiez déjà ce soir-là en compagnie de Christophe Comte.
Oh.
C'était merveilleux. Hein.
Oh, Dream Team.
À l'époque, Delerme avait sorti en même temps que son album 3 livres de photos. Cette fois-ci, c'est un film qui accompagne la sortie de Panorama. On écoute Je ne sais pas si c'est tout le monde.
Je sais cette chanson-là, Riverman, les violons, à chaque fois, le cœur qui tombe en panne. Je sais cet amour-là, débutant, premier matin chez toi, l'escalier en partant. Et je sais dans un cinéma, ton visage, tes yeux qui s'inondent. Mais je ne sais pas si c'est tout le monde. Je sais cette forêt-là, 14 ans, les choses laissées là-bas, ultra moderne enfant. Je sais ces années-là, les soirées, la fumée, la vodka, les amours, amitié. Et je sais la chambre avec toi, à 5 heures dans la nuit qui tombe. Mais je ne sais pas si c'est tout le monde.
Premières impressions sur ce nouvel album de Vincent Delerme, Sophie Rosemont.
De la nostalgie d'aujourd'hui.
Clémentine Goldsall.
La nostalgie pour dissimuler l'absence de vision.
Christophe Comte.
J'allais dire Delermien, mais c'est un peu facile. Mais non,
après, parce qu'après, si vous dites félinien, on risque de pas comprendre pour la féline.
Cinématographique, forcément, puisque c'est un album, mais c'est aussi un film. Les deux sont quand même très liés.
Sophie Rosemont, sur ce panorama alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que vous avez à en dire, vous?
Alors déjà quand même, présentons le fait que chaque titre a été réalisé par des personnes différentes. Donc c'était un souhait de Vincent Delerme pour cette envie de désormais offrir un nouveau concept à chacun de ses disques, qu'il a non content d'être accompagné d'un film et s'accompagne de collaborateurs qu'il connaissait soit très bien, soit de personnes qu'il admirait de loin, soit d'amis avec lesquels il n'avait jamais travaillé. Et très étonnamment, malgré des réalisations et des arrangements, surtout très éclectiques, il y a un fil rouge qui est composé de la voix et des textes de Vincent Delerme, qui sont toujours très identifiables avec cette voix traînante, qu'il est de moins en moins, cependant, qu'il est de moins en moins. Et ce name dropping, d'ailleurs, qu'on connaît chez qu'on vient de connaître, enfin de commenter chez Souchon, le don de raconter les petites histoires qui font ensuite des souvenirs étrangement éternels et immuables. Le champ lexical de l'image est très très fort tout au long de cet album. Il a toujours été. Déjà, le premier album était effectivement féru de cinéma. C'était presque caricatural. Il poussait vraiment ses influences très loin. Mais ici, on va de Neil Drake à Truffaut, bien sûr, beaucoup. Les émotions défilent. Elles sont précises, mais elles sont pudiques. Dès le début, il y a les références à Souchon, d'ailleurs. On vient de l'entendre. Ultra moderne enfant. Donc moi, je trouve ce disque assez charmant et assez. Je pourrais pas utiliser le mot novateur. Je parlerais plutôt d'un souffle nouveau par justement cet éclectisme de production. On est face à des chansons qui sont parfois très folk, parfois électropop, parfois juste pop. Les rythmiques sont assez différentes, beaucoup plus mises en avant. Il me semble que par exemple les disques précédents, que la plupart des disques d'ailleurs de Vincent Delerme. Et il y a un titre qui me chagrine un peu, c'est Les Enfants Pâles avec Rufus Wainwright, mais parce que je déteste quand Rufus chante en français vraiment.
Vous l'appelez Rufus, vous Non, mais je note, c'est tout.
Que je n'aime pas du tout, ça me horripile, voilà, ça m'horripile.
Donc bah, appelez-le pour lui dire peut-être.
Ça arrive au milieu du disque et j'aurais préféré que Vincent Delerme la chante en entier tout seul, même si j'aime beaucoup Rufus Wainwright.
C'est parce que vous n'arrivez pas à dire son nom en fait.
Non, c'est son nom de famille, voilà.
En même temps, il n'aurait aucun sens s'il a chanté tout seul.
Je suis pas sûre au final.
Bah si, ça aurait été drôle qu'ils se glissent
dans la peau, bah justement, des doublements de personnalité, tout est possible maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est une pop très bien chantée.
Clémentine Goldstein sur Vincent Delerme, une comparaison à Guillaume Musso peut-être.
Non, pas cette fois-ci. Non, c'est vrai, j'ai été un peu sévère. Je retire Marc Lévy. Choisissez vous-même votre propre écrivain insipide.
C'est pire.
Bon. Non, je suis d'accord avec Sophie, j'apprécie beaucoup l'effort de production sur ce disque, parce que personnellement, je suis toujours un peu découragée par le rythme un peu traînant de Vincent Delerme. Et on rejoint.
On vous a mis deux mots au programme, c'était pas le jour à venir.
C'est horrible, ouais. On ressemble un petit peu, on rejoint un petit peu Alain Souchon avec cette sorte de neurasthénie, là, qui pourrait être charmante, mais bon, qui fait quand même j'ai l'impression d'écouter un vieux petit garçon dans un pyjama en pilou, qui vient me chanter des trucs. Alors, ce qui est agréable, c'est que, et ce qui m'attire dans ce disque et qui me plaît, c'est qui fait référence à des artistes que j'aime. Donc, il fait référence à Sagan, là, une chanson qui s'appelle La Chamade, il fait référence à Agnès Varda, il fait référence à Raymond Carver, à Truffaut. Donc, il convoque comme ça des clichés de créateurs. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il les convoque pas pour des bonnes raisons, il les convoque pour les rétrécir un petit peu. Donc Sagan, qui pour moi est la vitesse qui tue, ça devient l'amour romantique. Carver, il le prend pour parler du minimalisme, alors que pour moi, Raymond Carver, c'est quand même l'alcoolisme jusqu'à la mort. Truffaut, il le prend pour une forme de délicatesse des sentiments, alors que Truffaut, pour moi, Truffaut, c'est la peau douce et c'est les sentiments qui ébranlent et qui perturbent. Et donc, j'ai l'impression que tout ça, il passe un peu tout ça à la moulinette de ce disque. Et du coup, sans prendre le risque de se tromper, sans prendre le risque de déplaire en restant comme ça dans un cadre un petit peu confiné, ça donne quelque chose qui est joli, qui ne dérange pas, mais qui ne m'émeut pas.
Christophe Comte, à présent.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un film et un disque. Ouais. C'est très difficile de séparer les deux, même si les deux s'entendent très distinctement. Il y a une chanson qui s'appelle Panorama qui fait le lien entre les deux. Il faut voir que le film, toute l'œuvre globale de cette histoire, on verra que le spectacle qui commence sans doute résonnera avec ça, c'est en fait d'aller vers les autres. Pour une fois, on dit toujours les chanteurs sont complètement nombrilistes, ils ne parlent que d'eux, de leur petite vie, et surtout Delerme, on dit toujours ça. Et là, il va vers les autres, il interroge des gens très très différents les uns des autres, des amis à lui, mais aussi des gens assez éloignés de lui. Et sur ce disque, c'est un peu la même chose, puis il va vers des réalisateurs différents, on l'a dit, pour chaque morceau. Pour moi, Delerme est un chanteur un peu oulipien quand même, parce que ça fait plusieurs albums qui se met en...
Des contraintes
qui sont pas évidentes. Enregistrer un album avec trois pianos préparés, c'était pas du tout évident. Il l'a fait avec Les Amants Parallèles. À chaque fois, il se donne comme ça des contraintes qu'il reproduit ensuite en spectacle. Et sur ce disque-là, la contrainte, c'était de j'allais dire coaguler, mais il faut plus que j'emploie ce mot, de faire une cohésion de tas de choses qui, a priori, de gens qui étaient faits pour pas vraiment se rencontrer. Et Delerme est un peu le socle de tout ça. Il apporte, je trouve, dans ce qu'il raconte, des choses absolument bouleversantes, mais il faut être en attente d'être bouleversé par l'idée que ces choses-là, qui sont pour moi assez immenses, et je vais pas faire le malin en essayant de caser plein de citations, de références littéraires, mais pour moi, Delerme, ça me paraît tellement évident maintenant sur la longueur de son œuvre, c'est Annie Ernaux, c'est vraiment les années. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un panorama de choses depuis qu'il chante, depuis qu'il écrit, qui sont des tonnes de souvenirs, pas de chacun, des souvenirs universels, de la France notamment, mais pas seulement. Et chacun d'entre nous arrive à un moment sur l'échelle, sur la timeline, et se confond à ce que dit Delerme. Et Annie Ernaux, c'est pareil, à un moment dans les années, on est à un moment, et on comprend, on saisit ce moment-là. Et tout part de là, d'une certaine manière. C'est une graduation vitale. Et je trouve que chez Delerme, il y a exactement ça. Alors peut-être, moi j'ai peut-être 10 ans de différence avec lui, mais je me retrouve totalement dans son appréhension des choses, du monde. Il y a plein de choses, alors on va pas les citer, mais l'idée des enfants pâles, je la trouve très belle. C'est-à-dire comment deux petits-enfants appelés à être des artistes vivent dans leur chambre d'enfant, cette idée qu'un jour quelque chose va éclore, mais ils ne savent pas encore quoi. Cette idée-là, il y a beaucoup de gens qui la ressentent. Et je trouve que c'est très très difficile de la faire passer dans une chanson. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont extrêmement subtiles chez Delerme et que la plupart des gens refusent de voir parce que considère que c'est un chanteur qui justement chante des choses du quotidien. Or, c'est tout l'inverse. C'est des choses totalement universelles, mais qui peuvent résonner ou pas avec la vie des gens. Je comprends que si on est un rappeur dans le Bronx ou un noir américain, ça ne résonnera pas du tout. C'est évident. Même lorsqu'il parle de des États-Unis, comme c'est le cas dans ce disque. Il y a quelque chose de très français chez Delerme. On le disait tout à l'heure, Sophie le disait pour Souchon. Mais je trouve que c'est très difficile, finalement, de vivre cette époque sans avoir cette appréhension du monde que Delerme a. Et pour lui, le refuge, c'est le souvenir. Et le souvenir, c'est pas un truc nostalgique, c'est un truc de simplement on sait très bien que Alzheimer, c'est une des pires choses qui puisse arriver à un être humain. Et c'est la perte des souvenirs. Et là, Delerme, c'est quelqu'un qui entretient un souvenir de tas de choses et qui nous sont, à mon avis, assez communes.
Mais alors, c'est vrai que vous m'avez fait aimer Vincent Delerme avec le précédent album, et là, je vais me retrouver dans le manque de subtilité qu'évoquait tout à l'heure Clémentine Gonsal, parce que visiblement, je ne l'ai pas eu sur celui-ci, parce que j'ai l'impression, alors s'il faut convoquer Truffaut, ce serait plutôt la chambre verte. C'est-à-dire, on est quand même dans le musée fétichiste d'une vieille personne qui veut figer des choses. Alors, s'il me rappelle quelque chose, alors je lui en veux énormément de m'avoir rappelé l'existence d'Angelo Branduardier, parce que quand j'ai entendu ce nom cité, j'ai failli tomber de ma chaise. Oh non, mais pourquoi il me parle de cette horreur? Enfin, c'est
oui, mais un chanteur ne doit pas mentir. Or, oui, non, mais Delerme raconte qu'il a vu un concert d'Angelo Branduardier. Non, mais
sa sincérité.
Il dit j'ai vu un concert de Nick Drake, on l'aurait pas cru.
Sa sincérité n'est pas en doute, mais alors pour moi, ça n'agit, mais pas du tout. Ça agit vraiment d'un côté. Moisi, je prends des termes de Clémentine Gossel. Mais sur la comparaison avec les années, Sophie, heureusement, vous avez l'air de tiquer un peu, même si votre grand ami Christophe Comte a des goûts communs avec vous.
Vraiment, moi, j'aime ce disque, mais Je pense que c'est important de parler quand même du film. Si on peut prendre 2 minutes pour en parler quand
pas
même.
Plus.
Vraiment 2 minutes. La vie passe et j'en fais partie. C'est une très belle formule qu'il a à la fin de son album, dans Photographie. Et comme on peut l'entendre dans Panorama, il fait intervenir dans, je ne sais pas si c'est tout le monde, plusieurs personnalités ou même des anonymes. Il y a aussi bien sa compagne qu'un journaliste qui tient des agendas, que Jean Rochefort, donc c'est la dernière apparition, ou Aloïs Sauvage, ou Vincent de Dienne. Donc là aussi du name dropping, mais filmé avec une très belle attention à accorder l'image d'une part, et aussi, surtout aux mots. J'ai été très très émue par ce film. Et est-ce que j'aime autant cet album
salle,
parce que j'ai...
comment il sort en salle ce film?
Il sort dans plusieurs
oui,
salles françaises.
Il est projeté dans voilà, c'est pas une sortie. Voilà, dans tous les cinémas, mais il y a des cinémas.
Il y aura des cinémas.
Et oui, je pense que le film doit suivre la tournée, en fait. Il
d'accord.
sera projeté
au fur et à mesure de la tournée.
Et j'ai vu le film avant d'écouter l'album. Et c'est peut-être pour ça que j'ai aussi si bien reçu l'album. Le film m'a vraiment ému. Je l'ai trouvé en plus assez bien maîtrisé pour je peux pas dire un premier long métrage parce qu'il dure 1 heure, donc il est hors format. Donc comme quoi, il peut aussi sortir des cases.
Non, à partir d'une heure,
c'est un métrage, mais moyen. Pas si moyen.
Non, ça n'existe pas. Une heure, c'est un long métrage. En dessous, c'est un court métrage. C'est la classification
CNC. Ah, ça reste
CNC.
Quand même un long métrage.
Bah, si c'est une heure. Si c'est 59, non.
Ah, très bien. Bon, nous apprenons quelque chose aujourd'hui. Grâce. Encore grâce à Arnaud.
C'est merveilleux. Et en plus, je vais peut-être avoir dit une bêtise et on m'enverra des courriels pour me dire que je raconte n'importe quoi. Panorama de Vincent Delerme chez Tôt ou Tard. La tournée, il va jouer du 22 octobre au 7 décembre à la Cigale, mais pas tous les soirs.
Si, tous les soirs.
Tous les soirs.
Enfin,
ou 5 soirs par semaine.
En tout cas, il y a 3 semaines de Cigale.
3 semaines de Cigale, ça commence comme ça. Ensuite, on passe au mois de février à Toulouse. Il y aura ensuite Bordeaux, Biarritz, Deauville, Lyon, Nantes, Poitiers, Lille, Bruxelles, Enghien-les-Bains, Chenôve, Besançon, Vittel, Tours, Plougastel, Châteaudun, Clermont-Ferrand, Annecy. Tout ça, c'est entre le 11 février et le 20 mai. C'est l'heure du coup de cœur. Ce soir, celui de Christophe Comte pour Air India de David Stanke. Et comme toujours, 2 options. L'extrait du morceau avant vous ou d'abord vous, puis le morceau.
Alors d'abord le moi, parce que sinon on va rien comprendre. Je pense qu'il faut
d'accord.
d'abord qu'on en parle un peu.
Alors,
donc, David Stanke ou Stanke, je ne sais pas trop, c'était le leader de Tahiti Boys and Palm Tree Family, un groupe voilà que certains connaissent, plutôt intéressant, de l'un des Français. Ensuite, il a basculé sur les musiques de films. Il a travaillé avec des gens qui ont un sens de l'absurde assez achevé, notamment Éric Judor et Quentin Dupieux. Donc déjà,
merveilleux.
Ça pose un garçon.
Je l'aime déjà.
Et là, il se dit. Donc, qui s'appelle Air India, démarre par une insomnie à la veille de décoller pour un voyage en Inde. Alors, l'idée, c'est qu'on entend dans son sommeil des gens qui lui parlent et puis il flippe parce qu'il va partir dans un territoire totalement inconnu, l'Inde. Et donc, il a une appréhension et à la fois une excitation à découvrir ce pays fascinant pour lui. Donc, à partir de là, alors, on n'est pas du tout dans le registre savant à la Chassol qu'avait fait India Mort, vous vous souvenez, ou qui partait des bases savantes de la musique indienne. Là, on est plus OSS 117 à Pondichéry. Donc, si vous voyez, il y a un côté film des années 50-60 et aussi un côté musical hérité de ces années-là. Ces albums, à l'époque, avant que les voyages se démocratisent, vous savez, il y avait des gens, des arrangeurs, genre André Pop ou des gens comme ça, Michel Legrand, qui faisaient des disques de voyage un peu pour faire voyager les gens sur place. Et donc, il y a ça. Il y a un côté bollywoodien. Il y a une chanteuse... connu Bollywood qui chante sur le disque. Il y a beaucoup de choses. C'est à la fois un peu faussaire, un peu authentique. Ça parle de la musique indienne. Il y a des tablas, il y a des sitars. Il y a autant de clichés qu'il y a de véritables trouvailles. C'est assez prodigieux, je trouve, ce disque, parce qu'on est tout le temps un peu voilà à cheval entre deux intentions qui sont à la fois un peu caricaturales et très sincères. Alors, on va écouter un morceau qui justement est un peu dans cette veine bollywoodienne, et accrochez-vous, mettez les ceintures, parce que ça y a des turbulences.
Ouais, d'autant que ça s'appelle Rickshaw.
Voilà. We'll be right back.
Tous en rake show pour aller sur Air India à la suite de David Stanke. C'est sorti chez Entreprise.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Le dernier album à notre sommaire, c'est La vie future de la féline, Agnès Guéraud, qui a sans doute cette vie comme tout bon félin, puisqu'on la connaît en tant que philosophe. On avait parlé de son dernier livre ici, dans La Dispute dialectique de la pop. Voici que paraît à présent son troisième album, son nom de scène. Il sera ici question de prospective, et le futur en question ne s'annonce pas toujours forcément pour le pire, hein. On verra, on va en parler. On va écouter le morceau qui ouvre l'album, Palmier Sauvage.
Go.
La Féline, et le morceau s'appelle Les Palmiers Sauvages, l'album La Vie Future, premier tour de table, Clémentine Goldsall.
L'intelligence, c'est bon pour la pop.
C'est pas mal sur un bandeau de couverture. Christophe Comte.
Après la dialectique de la pop, les travaux pratiques sont au même niveau.
Bon, bah dites-moi. Sophie Rosemont.
Pop sidérale, cosmique, ensorceleuse et mystique.
Bon, on comptait ce soir sur Clémentine pour dire du mal des albums. Là, c'est raté, je crois.
Non, ça, vraiment, j'aime. Ouais. Bah, je trouve que, bah, alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même vraiment à rebours des deux albums dont on vient de parler. C'est-à-dire que cet album de La Féline qu'on apprend à connaître de plus en plus. Cette jeune femme qui s'appelle Agnès Guéraud, qui est musicale et à la fois éminemment littéraire. Elle est normalienne. Elle a, comme vous l'avez dit, écrit quelques livres. Elle a un blog que je conseille à tout le monde d'aller voir, qui s'appelle Moderne, c'est déjà vieux. .wordpress.com, où elle publie des textes, vraiment des très beaux textes. Et cet album, je crois, est né de la collision entre la mort d'un ami proche et sa grossesse. Et c'est un album, je trouve, qui est construit vraiment comme ça, comme une vague qui enfle, qui doit s'écouter du début à la fin. Et ça gonfle dès le début. Les éléments sont déjà là. Et ensuite, l'écosystème se met en place. Ça gonfle jusqu'au milieu. Et ensuite, ça se relâche comme ça. Et il y a quelque chose de complètement organique, de très, très beau. Une production que je trouve très intelligente. Elle utilise sa voix d'une manière extrêmement subtile, en fait. Elle utilise les violons, on a entendu un petit peu ici, mais elle utilise des violons magnifiques, elle fait un usage de l'autotune. Moi qui suis vraiment complètement anti-autotune, c'est une des seules fois où j'entends de l'autotune, et je suis contente parce que l'autotune, là, sur une chanson qui s'appelle La Terre Entière, fait ressembler sa voix à un violon, et du coup il y a tout ce jeu entre les instruments, entre la voix qui répond aux instruments et les instruments qui répondent à la voix. Et je finirai juste pour dire que c'est un album qui prend à bras-le-corps les problématiques d'aujourd'hui. C'est un album qui s'ouvre avec une chanson sur la crise climatique. Non, mais c'est vrai, et je trouve que c'est important. Je trouve que, en fait, de ne pas se confronter à ces problèmes-là quand on fait de l'art, et que ce soit de la pop, de la littérature, du cinéma, c'est un problème, quoi.
Mais là, c'est pas trop subtil, non?
Non, en tout cas, j'ai compris. Donc franchement, si j'ai compris, c'est que c'est pas trop subtil.
Christophe Comte.
Un très très beau disque de quelqu'un qu'on commence vraiment à prendre très au sérieux, parce que jusqu'ici c'est vrai que c'est, enfin, on l'a toujours pris au sérieux pour nous, mais
oui,
c'est
on
vrai
voulait qu'on... l'embaucher à la dispute, on n'aurait pas pu parler de son livre, ça aurait été bête.
Mais c'est vrai que là elle affirme quelque chose d'assez fort, je trouve, parce que on pouvait jusqu'ici trouver que c'était une sorte de la grande Sophie qui avait réussi, qui avait bon goût, parce qu'il y avait quelque chose dans,
et vous passez votre salut à la grande Sophie au passage, hein, d'accord.
Et en fait, pas du tout, parce que elle a... bon non, mais moi j'aime bien la grande Sophie.
D'accord, rattrapez-vous un peu.
Non, mais c'est compliqué de dire du mal des gens sur une antenne comme ça, parce que parfois ils écoutent.
Ouais, c'est le danger. C'est de la radio.
Je sais même plus ce que je voulais dire.
Donc on la prend au sérieux maintenant.
Non, on la prend. Je veux dire, son art musical a pris quand même beaucoup d'ampleur. Ouais. La production, effectivement, est extrêmement belle, très fine. Et très précise aussi. Et quelque chose m'est apparu que je n'avais pas du tout saisi jusqu'ici. Alors, il intervient dès le deuxième titre, et même c'est sur celui-là que c'est le plus évident, c'est l'influence de Christophe chez La Féline, qui s'entend vraiment de manière presque littérale là, sur ce titre qui s'appelle « Effet de nuit » en plus. Et je trouve que ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas eu dans le paysage de la pop française quelqu'un qui maniait aussi bien des choses aussi complexe et cosmique, et tout en restant les pieds sur terre, alors ce qui n'est pas toujours le cas de notre ami Christophe, mais là en l'occurrence, elle reste effectivement empreinte de beaucoup d'inquiétudes, de beaucoup de... Oui, on sent, elle vient d'accoucher, elle était enceinte quand elle écrivait ce disque, on sent qu'il y a une crainte quand même de ce futur qu'elle décrit, et en même temps pas tant que ça, parce qu'elle sait qu'il faut quand même une part d'espérance quand on met au monde un enfant. Et c'est dans cette zone-là, un peu intermédiaire entre la crainte et l'espoir, que se situe ce disque qui raconte des choses qui parfois m'ont un peu échappé, je dois dire, mais qu'il est dit avec une très grande délicatesse et avec des effets. Pink Floyd l'avait fait avant, mais les battements de cœur en rythmique sur Voyage à Citer, c'est assez beau, je trouve. D'autant que ce sont les battements de cœur de l'échographie. Enfin bon, voilà, sans doute ça a déjà été fait avant aussi, mais dans le genre de voilà qui moi me plaît beaucoup, de cette musique un peu comme ça qui réfléchit un peu au cosmos. Je trouve ça, c'est une grande réussite.
Sophie Rosemont, sur l'album de La Féline.
Alors, parlons d'auteurs, enfin, intéressants. C'est guère étonnant qu'Agnès Guéraud soit proche de
Vincent Delerme et Alain
Tristan
Cochon.
Garcia, parce qu'avec lequel elle partage des thématiques similaires. Le grand destin de l'homme écrasé par les erreurs du passé, comme par l'angoisse de l'avenir. Les mythologies qui font l'histoire avec un grand H. L'humanité mise à mal par l'adversité et l'orgueil. Et puis, la pulsion de vie qui domine malgré tout, qui est présente dans tous les livres de Tristan Garcia. Et qui a été présente jusqu'ici dans tous les disques de La Féline, et là qui est vraiment transcendée. Donc déjà par des mélodies que je trouve extrêmement bien faites, bien travaillées, une production qu'on pourrait qualifier de chamanique, clairement, un travail sur les synthétiseurs, et pas seulement sur les synthétiseurs, quand Clémentine parlait des violons, j'ai remarqué que c'était un nouveau point commun avec évidemment Laurie Anderson, c'est-à-dire qui est une des références, ce qui paraît assez évidente ici dans ce disque de La Féline, mais là qui est très fort avec le côté beaucoup plus pop et mélodique et moins expérimental que Laurie Anderson sur certains de ses albums d'ailleurs, parce qu'elle a pu l'être beaucoup. Et la toche blanche et la fausse bulle d'astronaute arborée sur la pochette qui donne le ton astral de l'album, donc futuriste, mais dans son aspect de ce qui, le plus dystopique, parce qu'il s'agit de ça quand même. Donc entre deuil et maternité, entre celui qui part, celui qui naît, il y a de quoi se questionner, mais avec tout le savoir-faire, le savoir tout court d'ailleurs universitaire, quasi encyclopédique d'Agnès Guéraud. Et je suis très très charmée, enfin j'adore même cette pop qui est mystique, très arrangée, qui nous inquiète, mais sans nous mettre mal à l'aise. Et ça c'est quand même très difficile, parce qu'elle ne cache rien. Elle nous parle quand même de ce monde dans lequel nous vivons et qui n'est qu'en l'antichambre. D'un enfer à venir, ou pas. Et en même temps, comme elle le dit à son enfant dans Vision de Dieu, l'avenir est précieux, ce qui donne à entendre des morceaux plus épicuriens, comme un de mes préférés qui s'appelle Où est passée ton âme, qui est un équivalent du Serpent qui danse de Baudelaire en musique. C'est vraiment un morceau merveilleux que j'encourage tout le monde à écouter. C'est la troisième piste, même si l'album dans l'ensemble est vraiment superbe.
Bon, on peut pas en dire plus, vu l'heure qu'il est, mais je signe à peu près par des choses que vous avez dites. Elle sera en concert, La Féline, le 12 décembre au Café de la Danse. J'imagine que vous l'avez déjà vue sur scène, les uns et les autres.
Oui.
Sophie, ça...
C'est toujours très bien.
C'est toujours très bien. Christophe, pas encore.
Moi. Et moi Clémentine. Moi non plus, jamais vu.
Bon, ça, je me sens moins seul pour une fois. Ce soir, le disque est chez Quedan, Vie future de La Féline. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute avec David Dana qui nous a rejoint, qui va nous rappeler la question du jeu d'hier et nous donner sa réponse. David,
qui est l'architecte de la Gaîté Lyrique, et la réponse est Alphonse Cuzin,
que j'ai bien connu. A gagné ce soir des DVD du film Nevada de Laure de Clermont-Tonnerre. Quelle est la question, David ?
Qui est le producteur exécutif du film Nevada ?
Ça c'est précis. Si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir, Jacques Azubert. Réalisation, Alexandre Fougeron. Les informations sur l'émission à retrouver sur le site franceculture.fr à la page de la dispute. Vous pourrez réécouter nos émissions ou vous abonner au podcast. Demain, une dispute art plastique à 19h. Je serai avec Sally Bone, Ingrid, Luc Egad et Florian Guetté. À notre affiche, Hans Hartung, la fabrique du geste, c'est au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Le face-à-face et même le corps-à-corps, Yann Peiming-Courbet, c'est au Petit Palais. Backside, dos à la mode, c'est au Musée Bourdel. Et un coup de cœur de Florent Guetté pour, quel beau titre, Le bikini invisible d'Hippolyte Engen, c'est au Mamak à Nice.